Jérôme Salomon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes devenu l'un des visages familiers de cette crise, de cette épidémie. Vos points presse tous les soirs nous renseignent sur le bilan du jour, le bilan au jour le jour des personnes infectées, le nombre de décès, de personnes en réanimation. Directeur général de la santé, dites-nous pour ce qu'il est du bilan en France. À ce jour, 5423 cas confirmés, 127 morts, 36 de plus en 24 heures et 400 personnes hospitalisés dans un état grave. Que dit ce dernier bilan de la dynamique de l'épidémie? Est-ce qu'elle continue à monter rapidement, très rapidement en régime?
Oui, vous avez rappelé les chiffres et ça démontre une situation extrêmement préoccupante. La situation de l'épidémie en France est très inquiétante. Elle se détériore très vite. C'est une épidémie très rapide. On voit que le nombre de cas double désormais tous les 3 jours. Et puis vous citez des chiffres, mais je voudrais surtout que nos concitoyens se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont malades, qui sont en réanimation et dont le pronostic vital est engagé, et que ces personnes se chiffrent en centaines. Puisque vous avez entendu il y a quelques instants le témoignage des soignants de Mulhouse, mais vous pourriez faire la même chose à Colmar, à Strasbourg ou même en région parisienne. Et donc les soignants poussent vraiment un cri d'alarme, un cri d'alerte, demandant qu'on les aide, demandant que les Français les aident, parce qu'il faut comprendre que nous avons tous un rôle majeur à jouer contre l'épidémie et que nous pouvons tous faire barrière contre cette épidémie en respectant les consignes, en respectant des consignes de mesures barrières que les Français connaissent mais qu'ils n'appliquent pas encore suffisamment, en respectant les consignes de distanciation sociale, et on voit encore que la distance d'un mètre n'est pas du tout respectée, et surtout en diminuant massivement ses contacts. Et quand je dis diminuer massivement ses contacts, c'est passer de 50 ou 100 personnes que l'on voit tous les jours, que l'on fréquente tous les jours, que l'on approche tous les jours, à quelques unités. Et là encore, ce message n'est pas passé, parce qu'on voit bien que aujourd'hui, les hôpitaux, en particulier en Alsace, mais dans d'autres régions de France, ont vraiment de grandes difficultés à prendre en charge les patients qui arrivent vraiment tous les jours, toutes les heures, et que les soignants font des sacrifices considérables. Ils sont sur le front jour et nuit. Ils sont maintenant en train d'ouvrir des lits de réanimation dans les salles de réveil, dans les blocs opératoires, et que ils appellent les Français à faire barrière au virus avec une technique très simple qui est tout simplement de rester chez soi et de réduire massivement tous ses contacts.
Jérôme Salomon, vous le dites vous-même ce matin, les mesures de confinement ne sont pas suffisamment respectées par les Français. Est-ce que vous, le directeur général de la santé, vous demandez d'aller plus loin du coup pour que ces mesures soient respectées? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans les heures qui viennent?
Alors, je crois que les Françaises et les Français doivent comprendre en fait quelque chose que peut-être nous n'avons pas suffisamment expliqué, c'est que nous pouvons tous véhiculer le virus sans le savoir. Nos proches, nos enfants, nos amis, nos collègues peuvent être porteurs parce qu'ils vont être malades dans les prochaines heures, ou parce qu'ils ont des petits symptômes qu'ils ne signalent même pas, ils ont mal à la gorge, ils ont un peu mal à la tête et ils ne font pas attention. Et donc, ils sont transmetteurs de ce virus. Et donc, nous sommes tous potentiellement transmetteurs, et si nous ne respectons pas cette fameuse distance d'un mètre, si nous ne nous lavons pas très régulièrement les mains, si nous ne réduisons pas massivement et drastiquement nos contacts, on voit encore que les gens se réunissent, qu'ils se voient en grand nombre, qu'ils rassemblent les enfants et les aînés. Et donc, on observe très très concrètement dans la vie quotidienne. Encore hier, les reportages étaient très frappants, et les gens étaient encore beaucoup dehors, que certes, les écoles sont fermées à partir d'aujourd'hui, mais que beaucoup sont encore les personnes âgées ou les personnes fragiles qui ne respectent pas la consigne de confinement. Beaucoup sont encore ceux qui n'ont pas compris qu'avec quelques symptômes, il vaut mieux rester confiné à domicile pendant plusieurs jours pour protéger ses proches et protéger son entourage. Et donc, cette faible adhésion fait qu'on n'arrive pas à freiner la cinétique de l'épidémie.
Samedi soir, Jérôme Salomon, vous avez décrit le profil des personnes admises en réanimation. 50% d'entre elles, disiez-vous, ont moins de 60 ans. Est-ce que vous pouvez préciser cette statistique? Est-elle encore d'actualité ce matin? Et est-ce que vous avez des très jeunes, ce que j'appellerais des très jeunes, 20-30 ans?
Alors, déjà, un premier point, effectivement, nous avons souvent des personnes jeunes, c'était décrit d'ailleurs en Chine et en Italie. Il y a à peu près la moitié des personnes en réanimation qui ont moins de 65 ans. C'est possible de dire que on peut se retrouver dans une situation très grave en étant un adulte en bonne santé. On a un peu plus de 10% des personnes décédées qui ont moins de 65 ans. Donc vous voyez que c'est une maladie qui peut tuer des sujets adultes jeunes. Mais effectivement, on observe très très peu de cas chez les mineurs. Ça, c'est important pour les parents. Mais à partir de 25, 30 et puis ensuite avec une relation très très forte liée à l'âge, des formes de plus en plus sévères et ne nécessitant pas forcément une pathologie grave sous-jacente. C'est vraiment ce que nous décrivent nos collègues, en particulier alsaciens, mais aussi les hôpitaux franciliens. On sent qu'au fil du temps, les personnes qui ont par exemple des symptômes à la maison ou qui développent petit à petit une pneumonie peuvent nécessiter une hospitalisation, voire une réanimation lorsque leur situation s'aggrave.
Jérôme Salomon, le journal Le Monde a indiqué hier que des membres du conseil scientifique qui pilote la réponse à l'épidémie avaient travaillé sur une hypothèse très pessimiste, une hypothèse de 300 à 500 000 morts. Je dis bien hypothèse la plus grave et la plus pessimiste. Est-ce que vous confirmez que ce scénario noir existe vraiment ?
Mais ça, ce sont des prévisions et des modèles mathématiques, et les modèles mathématiques, c'est justement ce qu'on leur demande de nous décrire différents scénarios. Moi, je voudrais aujourd'hui dire que il y a des prévisions, mais il y a aussi des observations. Les observations actuelles sont préoccupantes parce qu'il y a des centaines de malades graves aujourd'hui, ce matin, dans les réanimations françaises. Ça, ce sont des faits, ce ne sont pas des prévisions. Et il y a une inquiétude, effectivement, qui est que cette cinétique de l'épidémie, cette rapidité de l'épidémie entraîne une saturation du système hospitalier français, ce que nous voulons absolument éviter. C'est pour ça que nous devons tout faire pour que cette épidémie ralentisse et que son impact soit le plus faible possible. Et donc, certes, on peut évidemment se faire peur avec des modèles mathématiques.
Vous imaginez la panique que ça a provoqué, ces chiffres-là.
Oui, mais ce sont des extrapolations que l'on peut expliquer. Simplement, vous savez que les Anglais et les Américains l'ont rappelé, un virus circule tant que la population mondiale n'est pas immunisée. Donc, ce virus va circuler tant qu'on n'a pas 20, 30 ou 40% de la population mondiale qui a des anticorps contre ce virus ou que l'on n'a pas un vaccin disponible, je l'espère, dès l'année prochaine. Mais ce que l'on ne sait pas encore, et il faut le dire aussi, puisqu'on a toujours dit ce que l'on ne savait pas, c'est quelle est la proportion aujourd'hui de la population qui a rencontré ce virus. C'est très difficile de le savoir puisqu'on ne dispose pas encore de ce qu'on appelle une sérologie, c'est-à-dire de la recherche des anticorps. Et donc, les modèles mathématiques estiment qu'effectivement, s'il y a une part importante de la population est touchée et que cette population présente des formes graves, on peut avoir effectivement de très nombreuses personnes en réanimation. On ne souhaite évidemment pas aller jusque-là, et le message est très clair ce matin de ma part. Les mesures barrières sont très simples, mais très efficaces. Chacun peut faire barrière contre le virus, et la technique la plus simple, c'est le cri d'alerte des soignants, c'est « reste chez toi ». Je trouvais que c'était une magnifique initiative parce que c'est aussi simple que ça. Le virus n'est pas dans l'air, le virus ne circule pas. Ce sont simplement les personnes qui se les passent d'une personne à une autre lors d'un contact trop rapproché. Et donc, c'est aussi simple que ça. Oui. Lorsque l'on réduit ses contacts, le virus ne passe plus d'une personne à l'autre et l'épidémie s'arrête. Et d'ailleurs, il y a un signal très positif ce matin. C'est que le confinement de Codogno, la petite ville qui a été touchée en premier en Italie, a marché puisqu'il n'y a plus de cas. Donc c'est une preuve très concrète que les mesures barrières et que la réduction des contacts, que le confinement permet à ce virus de s'interrompre puisqu'il n'y a plus de moyen de passer d'une personne à l'autre et le virus ne se transmet plus.
Jérôme Salomon, Martin Hirsch, qui était l'invité de Questions Politiques sur France Inter hier, a donné la règle, excusez l'expression, mais elle est ce qu'elle est, a donné donc expliqué la règle du tri des malades en réanimation. Les médecins se fondent, a-t-il dit, sur l'espérance de vie des personnes réanimées. Celles dont l'espérance de vie est estimée en jours ou en semaines ne seront pas réanimées. Est-ce ça la règle qui s'appliquera désormais?
Alors vous savez, ce choix quotidien, il est fait par les équipes soignantes et en réanimation, à chaque fois, les équipes se posent la question de l'intérêt pour le patient d'une réanimation et de la possibilité ou non de sauver le patient. Donc
c'est la règle classique, hein, c'est ça ce que vous nous dites.
Mais c'est vrai que les Françaises et les Français sont très attachés à leurs hôpitaux, ils sont très attachés à leurs soignants, en particulier les médecins et les infirmières. Et donc c'est pour ça que ce matin, je lance vraiment un appel à la mobilisation générale de l'ensemble des Français pour lutter contre ce virus et pour faire barrière, parce que ce serait vraiment catastrophique que l'on en arrive à effectivement trier des personnes, nos proches, nos familles en disant on ne peut pas prendre cette personne en réanimation parce qu'il n'y a plus de place. Et ce que vous disait le chef de service de l'hôpital de Mulhouse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on voit qu'on peut très rapidement arriver à la saturation d'un hôpital si dans une zone où circule activement le virus, comme c'est le cas par exemple en Alsace, il n'y a pas de mesures d'application des mesures barrières massivement par l'ensemble de la population, puisque le virus continue à circuler. Quelques jours après, vous tombez malade et puis potentiellement, plus il y a de malades, mathématiquement, plus il y a de malades graves. Et donc, c'est cette vague que l'on souhaite éviter et cette saturation du système hospitalier que l'on souhaite absolument éviter par l'application immédiate des mesures de distanciation, de ce fameux 1 mètre à respecter, de ce lavage des mains renforcé et c'est de cette réduction drastique des contacts. Je crois que chaque Française et chaque Française ce matin doit se dire comment je dois faire dès aujourd'hui pour diviser par 3 ou par 4 le nombre de personnes dont je m'approche.
Jérôme Salomon, les médecins généralistes et les pharmaciens, il y a beaucoup de questions de pharmaciens ces derniers jours au Standard de France Inter, disent qu'ils ne sont pas suffisamment protégés, qu'ils n'ont pas reçu de masque. Les pharmaciens disent on peut être nous-mêmes des vecteurs, la fréquentation de nos pharmacies explose littéralement, on a des gens tout le temps dans la pharmacie, on n'a ni masque ni gants pour les recevoir et on peut nous-mêmes être infectés et passer au client suivant. Même chose pour les médecins généralistes qui disent qu'ils reçoivent beaucoup, de plus en plus de patients sans avoir de masque. Où ça en est ? Est-ce qu'ils vont être distribués très vite pour les pharmaciens et les médecins ?
Oui, absolument, puisque nous devons en priorité protéger nos soignants, nos médecins, nos infirmiers. Vous savez que les masques sont une denrée précieuse, c'est une denrée rare qui doit être utilisée à bon escient. J'ai régulièrement dénoncé les détournements, les vols, les abus. Je voyais encore hier des personnes porter des masques et des gants dans la rue et toucher beaucoup de choses. Ça n'a pas vraiment de sens, d'abord parce que les gants sont contaminés très rapidement si on ne les enlève pas, et on se touche en permanence le visage avec les gants. Donc je crois que les masques sont vraiment à réserver aux personnes exposées, c'est-à-dire les personnes qui se retrouvent face à des malades, donc évidemment les infirmiers et les médecins généralistes qui vont récupérer effectivement le stock stratégique de l'État que nous distribuons largement aujourd'hui par l'intermédiaire des officines. Nous distribuons aussi massivement les masques vers les hôpitaux des zones les plus touchées, mais je crois qu'il faut que les Françaises et Français comprennent que les masques sont vraiment à réserver aux soignants. On voit encore des gens qui achètent des masques, détournent des masques, volent des masques. Ça n'a pas de sens quand on est dans la population générale, puisque comme je vous l'ai dit, la transmission principale se fait par les mains. Et donc les gens sont tout le temps en train de manipuler leurs masques, de les modifier, de le déplacer, de l'enlever. Et c'est justement potentiellement en manipulant ce masque qu'on se contamine, puisque si par hasard on a croisé le virus, il y a du virus sur le masque. Donc on a un vrai mauvais usage de ce masque. Il faut le réserver aux personnes qui savent l'utiliser, donc aux médecins généralistes, aux infirmiers et aux hospitaliers.
Deux questions très rapides qui reviennent souvent de la part de nos auditeurs, Jérôme Salomon. Pourquoi ne teste-t-on pas plus de personnes en France ? Pourquoi se priver d'une telle information ? Ça semble contre-intuitif. En quelques mots.
Alors, nous testons toutes les personnes qui sont hospitalisées, toutes les personnes graves, tous les foyers qui apparaissent dans les EHPAD, dans les écoles.
Mais pourquoi pas tous les
professionnels de santé ? Ça n'a pas beaucoup de sens de tester tout le monde, d'abord parce que ça obligerait à énormément déplacer de monde, et c'est ce qu'on veut éviter, puisque je vous rappelle que les consignes des autorités de santé, c'est de ne pas aller chez son médecin traitant, de ne pas aller dans un laboratoire où l'on peut contaminer des personnes fragiles, et donc cela obligerait à déplacer des infirmières dans l'ensemble des domiciles des Français, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Et les Français qui ont beaucoup de bon sens savent bien que lorsqu'il y a une épidémie de grippe, ils ne font jamais de tests de grippe. Et donc ce qui compte, c'est que nous ayons la capacité de compter les cas confirmés, que nous ayons la capacité de compter les personnes malades. C'est ce que nous faisons aussi avec une surveillance syndromique, c'est-à-dire le nombre d'appels au centre 15, le nombre d'appels aux médecins traitants, le nombre de médecins généralistes qui nous disent que sur 25 consultations, ils ont vu 5 personnes qui avaient un tableau évocateur d'infection à coronavirus. Toutes ces informations très classiques et très habituelles pour nous permettent d'estimer le nombre de cas. Et par ailleurs, vous le savez, la proportion de formes graves et la proportion de décès est très stable dans l'ensemble des pays du monde et nous permettent d'estimer très précisément le nombre de cas en France. Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à se faire tester lorsque l'on a des symptômes mineurs. Par contre, il y a une urgence et quelque chose vraiment d'impérieux, c'est que lorsque l'on a un peu mal à la tête, mal à la gorge et un peu de fièvre, il faut absolument rester confiné chez soi jusqu'à guérison, parce que là, on est potentiellement très contaminant. Et donc, il ne faut pas avoir un une espèce d'esprit de bravoure, de se dire je vais quand même aller travailler, c'est justement en ayant ce comportement que l'on contamine ses proches et ses amis.
Toute dernière question très rapidement, Jérôme Salomon, s'il vous plaît. On a vu beaucoup de gens dans les parcs et les jardins hier et ce week-end. Les parents qui se retrouvent avec les enfants ne savent pas s'ils ont le droit, un, de les sortir dans la rue, deux, de les emmener au jardin, au parc. Dites-nous ce qu'il faut faire ce matin avec les enfants.
Rapidement, s'il vous plaît.
Alors, effectivement, en respectant les objectifs que j'ai cités, c'est-à-dire des mesures barrières, c'est-à-dire le lavage des mains très régulier, la distanciation d'un mètre et en réduisant considérablement les contacts. Donc aujourd'hui, aller se promener avec son enfant dans un parc, pourquoi pas, mais aller rassembler des dizaines de personnes sur une pelouse et faire des jeux collectifs alors que les écoles sont fermées, ça n'a pas de sens.
Merci Jérôme Salomon d'avoir été au micro de France Inter ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la santé.